Question disputée de philosophie politique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 20 février 1993.
Alors nous allons commencer en vous demandant les questions que vous pouvez porter dans votre cœur, dans votre intelligence, sur ce sujet brûlant. On vous l'a montré. On n'a pas respecté l'ordre du prieur, on n'a rien d'ordre. Et même ceux du fond, puisque intermédiaire, s'ils ont des questions, qu'ils les posent aussi. Mais je demande d'abord aux frères. Oui.
La première, c'est la difficulté qu'on a, c'est souvent qu'on n'a pas tellement de pour penser bien commun, c'est des cas concrets. Alors, pour la communauté ici, ce que c'est un peu sondage, entre les frères, le bien commun de la communauté, pour certains, c'est le Christ. Pour d'autres, c'est la sainteté. Pour d'autres, c'est la charité fraternelle. Pour d'autres, c'est vivre de la paternité de Saint-Jean. Alors, il n'y a pas d'opposition, mais comme c'est des réalités différentes, j'aimerais comprendre l'ordre. Et ça pourrait peut-être nous aider à comprendre concrètement le bien commun.
C'est un nota bene, ça.
Oui.
Ce qu'on passe en théologie.
Mais comme c'est très pour nous, ça peut être...
Oui. Ah, je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout pour exclure. Mais je crois qu'il faut bien séparer la position, le problème philosophique du bien commun et le problème théologique du bien commun.
Mais ton éthique chrétienne?
Ah, oui. Alors, est-ce qu'il y aurait la politique chrétienne? C'est une question qu'on n'a pas touchée. Mais au fond, je crois qu'il faudrait mettre les trois niveaux. Ce qu'on a fait, politique, le bien commun au niveau politique, philosophique, le bien commun en théologie. Et qu'est-ce que peut dire le philosophe par rapport à l'Église qui nous donne ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a un principe nouveau qui commanderait une politique chrétienne? Il y a un bien commun dans la vision de la foi. Donc il y a trois problèmes.
Il y avait une autre question, c'est en éthique, on distingue le bonheur et le bien. Est-ce que le bonheur commun distingue du bien commun? Ce serait son rayonnement.
C'est très juste ça. On n'a pas touché la question du bonheur et j'avais senti la même chose que vous.
Et puis quand on disait qu'on ne peut plus poser de problème comme Aristote, on voit par exemple quand vous traitez de la philosophie du vivant et de la philosophie de la nature, Aristote lui ne distingue pas, et vous dites aujourd'hui on doit distinguer en fonction de tel et tel problème. Est-ce que là, on est par rapport à un cas similaire? Aristote semble, au début de l'éthique, dire qu'on va traiter de la politique et de l'éthique. On voit mal la distinction. Est-ce qu'aujourd'hui, en raison de la complexité, on ne doit pas davantage distinguer les domaines, mais ce qui le rend beaucoup plus abstrait. On a peu parlé de l'homme politique, on a parlé beaucoup de politique en général, de la communauté, et quand on essaye de savoir où existe la communauté, on a envie de retourner à l'homme.
Vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'avais envie aussi, de reprendre ce soir le problème par l'homme. Ce qui est tout à fait normal. Parce que c'est l'homme, dans sa finalité, qui nous fait poser le problème de la philosophie éthique, philosophie morale. C'est l'homme dans sa communauté. Et c'est l'homme chrétien. Alors on peut parler d'une famille chrétienne, parler d'un bien commun chrétien, en dehors du point de vue théologique.
J'avais deux autres points, mais si on peut les dire en passant, c'est des expressions, celle d'Aristote, quand il dit que le bien commun est ce qu'il y a de plus divin, comment on pourrait le comprendre? Et puis sinon, quand vous dites que le bien commun de la famille, c'est l'enfant, vous dites, je crois, que le bien commun de la famille, c'est l'enfant. Est-ce que c'est le sens le plus précis, ou est-ce qu'on peut préciser cette expression, disant c'est son... qui va permettre son développement ou... Et là, on aurait un bien commun qui
serait
un peu une personne.
Oui, au sens que l'amitié n'est pas un bien commun. Oui. Et que le bien commun, c'est la finalité de la famille, au point de vue. C'est l'amour d'amitié des conjoints, en premier lieu. C'est ensuite la survie de l'espèce, l'enfant, au point de vue philosophique. Situation limite du politique. Vous voyez, si on prend le point de vue du problème de la situation limite, que je crois un concept très, très actuel.
Le bien de la politique.
Et ensuite, quand il se rend compte, il cherche au niveau de la nature de l'homme, et qu'il cherche la fonction propre, il se rend compte que c'est au niveau de l'intelligence. Et dit donc que le bien, c'est l'intelligence qualifiée par un habitus. Donc, est-ce qu'il ne se rend pas compte, en recherchant le bien souverain, qui est le bien de la politique, que finalement c'est au niveau éthique, donc au niveau personnel. Donc, n'y aurait-il pas identification du bien de la communauté et du bien personnel? Et après, c'est pour ça qu'il étudie l'amour d'amitié et la contemplation dans l'éthique et Nicomaque, et ensuite dans sa politique. Il se demande si, puisque l'homme est par nature un animal politique, donc vit avec d'autres, n'y a-t-il pas quand même un bien particulier, un bien spécifique à la communauté qui serait alors l'autarcie dans la filiette politique. Est-ce qu'on ne peut pas regarder plus attentivement le premier livre de l'éthique et Nicomaque, qui a quand même une induction du livre.
Vous pouvez répondre.
Non, j'aimerais bien pouvoir répondre sur l'exégèse du livre 1 d'éthique, parce que
c'est pas commun du tout.
Non, c'est très compliqué. Ce que j'avais suggéré ici, ce qui me frappe toujours, ce que je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est les quelques lignes simplement qu'Aristote consacre au bien au début de la politique. Et il y a un certain nombre de raisons, même très pratiques, qui tendent à faire regarder le début de l'éthique comme valant aussi pour la politique. Et d'ailleurs,
c'est la philosophie pratique.
Voilà, c'est bon. Cela dit, ça répond pas à toutes les questions. Et maintenant, arriver à comprendre ce que veut dire Aristote au chapitre 1er du livre 1 quand il dit que la fin atteinte par la science politique, c'est le bien humain. Il dit, c'est anthropinon agaton, si j'ai bonne mémoire. Et donc, c'est bien ça, c'est le bien humain. Et puis un peu plus loin, il dit que si, bien entendu, si c'est le même bien pour un seul et pour la communauté, ce sera le bien le plus divin. C'est très difficile de comprendre comprendre dans quel sens il le dit.
Je serais très heureux de vous éclairer sur ce point.
N'oubliez pas le contexte aussi. Donc, comme très souvent chez Aristote, il y a cette emprise très forte de Platon. Faut pas l'oublier. 20 ans étudiant Platon. Vous voyez ce que ça peut être. Platon, un grand séducteur. Prodigieusement. Plus grand séducteur philosophe qui existait. Je crois. Alors, 20 ans sous sa coupe. Et c'est là où il parle de la vérité, Platon. Et c'est là où il donne l'analogie du bien. Il montre que le bien est une notion analogique. Et ça, c'est capital. Et la solution, elle est là. C'est parce que le bien est une notion analogique. Alors, sous certains aspects, le bien politique, le bien commun, passe avant le bien personnel. C'est évident. Sous d'autres aspects, c'est le bien personnel. Vous voyez ? Alors, grâce à l'analogie, on peut s'en tirer. Mais je suis tout à fait d'accord que ça demanderait des précisions. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a sûrement, par rapport à la politique d'Aristote, par rapport à l'éthique d'Aristote, il y a des précisions que nous devons faire. On ne peut pas prendre l'éthique d'Aristote comme étant l'éthique humaine, tout court pour nous. Le christianisme est passé par là. Et ça a modifié, et ça a obligé de pénétrer certaines choses beaucoup plus profondément. Alors on voit du politique très spécialement. Il ne faut pas oublier que la politique a été, au fond, ce qu'on disait, ce que vous disiez à propos de la religion et du point de vue politique, c'est très important ça. Il y a deux aspects sous lesquels les traditions, les jeux se jouent un rôle très important. C'est l'aspect métaphysique et l'aspect politique. Et quand je dis l'aspect politique, je veux dire aussi l'aspect éthique, c'est sûr. La religion a été première, ce que nous oublions complètement. Parce qu'on n'aime pas dire que l'aspect religieux est premier. Alors que de fait, historiquement, on ne peut pas nier. Je me souviens, c'était Pierre Desfontaines, géographie humaine. biographie humaine avait très fort ce sens pour l'art que tout naissait du point de vue religieux. C'est dans ce sens-là qu'il y avait son, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était juste l'autre, l'antithèse marxiste de géographie humaine qui était, prenait des positions diamétralement opposées. Alors que je crois que l'intuition de Pierre Desfontaines est très juste. C'est que ce climat religieux a donné naissance par la liturgie à l'art. La communauté religieuse est quand même la première communauté après la famille. Et c'est le point de vue religieux qui faisait cela. Et que l'art est lié à l'aspect religieux. Alors que tout est né de là progressivement et que l'aspect religieux aujourd'hui, comme vous soulignez, est le grand ennemi. On assiste à une espèce de courbe, ce qui pour moi fait toucher à tous ces points ultimes. Notre fin du XXe siècle touche à, et ce serait là très intéressant de le souligner, un article pour Aletheia qui serait magnifique à faire là-dessus. La fin du XXe touche à toute une série de points ultimes. Et ce point ultime, ce serait l'alpha de toute notre culture, à commencer par le point de vue religieux. Et ça se termine par l'évacuation du religieux. On est en face de l'évacuation, mais systématique, du point de vue religieux. On veut le supprimer partout où il est. Alors, est-ce qu'en faisant ça, on ne fait pas le suicide de l'homme? Parce que moi, je crois que l'homme ne peut pas exister longtemps s'il n'est pas religieux. On assiste à un suicide.
C'est ce qu'on dira. On dira même qu'au fond, on affranchit, que le modèle démocratique grec doit être affranchi de l'aspect religieux, et qu'au fond, aujourd'hui, on doit avoir présent une attitude politique complètement affranchie de ça, mais qui ait les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire que, parce que le grand problème, c'est est-ce que, au nom de la politique et de la vérité sur l'homme, est-ce que je peux imposer à l'individu et à la famille, vous voyez, jusqu'où est-ce que l'aspect politique est normatif? Le problème de l'éducation nationale,
tout
le problème.
Fait,
puisqu'Aristote considère même.
Le socialisme poussé à l'extrême, ben c'est ça.
Il pourrait se vouloir aristotélicien.
Quoi?
Il pourrait se vouloir aristotélicien. Enfin, vous voyez, faussement,
mais. C'est le marxisme. Voilà. Le marxisme. Soyons aristotéliciens. Et Lénine a commenté tout Aristote et la métaphysique d'Aristote.
Alors, est-ce que ça ne pose pas justement la question de la découverte ou de la recherche vraiment d'un ordre de sagesse humain, justement, qui vienne
tout à fait.
Prévenir ce genre de dérive dans un sens ou dans l'autre, dans le sens religieux ou dans le sens anti-religieux?
Et c'est dans ce sens-là que je dirais, grâce à Aristote, on peut dialoguer avec le marxisme. Il y a un point de contact à cause du réalisme et à cause de la matière. Et on sait, tous les curés se fourrent dans Platon. Et par là, ils se coupent du dialogue avec le marxisme. Et ils se font avoir. Parce que ça me frappe énormément, cette chose-là. C'est l'astuce du démon. Alors que c'est un moment où on peut dialoguer avec eux. Par le point de vue de l'expérience et du primat de l'expérience. Ce que veut Marx, ce que veut Lénine. Alors, ils le veulent de toute façon avec un vieux reste idéologique, donc platonicien. Ils ne sont pas assez réalistes, voilà ce qu'on peut leur dire. Alors, poussons le réalisme d'Aristote jusqu'au bout pour redécouvrir ce que c'est que le bien commun. C'est ça qu'on doit faire.
Je me posais la question, c'était pas en déterminant justement qu'est-ce que c'est qu'un bien personnel humain. C'était uniquement dans cette mesure qu'on pouvait commencer à envisager justement un bien commun, une communauté humaine, dans le sens que est-ce que je peux vraiment disposer l'homme au fond à acquérir son bonheur, à acquérir sa fin, si déjà je ne sais pas ce que c'est qu'une véritable fin personnelle pour moi.
Tout à fait.
Est-ce que au fond, l'homme politique, la communauté humaine ne doit pas être là pour disposer l'homme. Presque, je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait dire comme une condition sine qua non, pour permettre à l'homme d'acquérir son bonheur plus facilement?
Oui, c'est la notion de la païdéia grecque qui joue un rôle si important. Parce que l'aspect politique, c'est pour la païdéia. C'est pour éduquer et permettre à l'homme de s'ouvrir à la réalité et au vrai bien. Alors vous voyez, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, que le livre premier d'Aristote, qui est un livre critique, au fond. Aristote commence presque toujours par un livre critique. Il l'a fait pour les autres, il le fait à point de vue critique. Pour montrer que la notion de bien est une notion analogique. Et donc quand on parle du bien, il y a toujours une notion analogique. Et qu'on peut s'en tirer comme ça, parce que justement, l'homme demande d'être finalisé. Pour être lui-même.
Justement, par rapport à l'éducation, quelle serait cette éducation? Quels seraient ses objectifs? Quels seraient ses dispensateurs? Et quelles seraient ses limites?
Vous voyez, c'est là la notion extrêmement importante de savoir le pouvoir de l'État sur le point de vue de la famille et d'éducation. Alors, par le fait même, il y a un rebondissement sur le bien commun. Au nom du bien commun, on supprime l'école libre au nom du bien commun, alors que ça devrait être le bien commun qui proclame l'école libre. Parce qu'on fait une idéologie du bien commun, on a une idéologie du bien commun qui n'est pas le vrai bien commun.
Oui, et nous, ça nous renvoie peut-être dans notre choix de vie communautaire monastique, à la règle de Saint-Benoît, qui reconstitue une famille pour que justement il y ait une expérience commune et il y ait une force. Mais c'est, comme vous le dites, pour les débutants. Hein, mais c'est l'expérience commune.
Tout à fait. C'est dans ce sens-là qu'on dit que Saint-Benoît est patron de l'Europe. Parce qu'il a donné cette païdéia, cette éducation de la vie religieuse monastique, dans le sens profond, que personne n'a supprimé. C'est tout à fait différent la règle de Saint-Augustin, qui, elle, s'adresse directement aux prêtres, à la vie apostolique. Le souci de Saint-Benoît, c'est pas du tout la vie apostolique. C'est le souci de garder l'attitude religieuse.
Parce que la question se pose pour nous, de garder une forte vie très vite.
Tout à fait.
On parle toujours de lien, et de faire un lien entre la personne et la communauté. Est-ce qu'on pourrait acheter ces deux notions-là par les notions d'égalité? Est-ce que le bien est le même pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a le même accès au bien? Est-ce qu'il y a des biens différents sur l'échelle? Et est-ce que, si on creuse un peu, est-ce qu'on n'a pas deux notions d'égalité, une notion qui est chrétienne, c'est qu'on est tous égaux devant Dieu, et en même temps une inégalité fondamentale, où il y en a un qui est petit, l'autre qui est grand, un qui fait un 100 mètres, et l'autre qui n'est pas capable de le faire.
Sûrement que la notion d'égalité que nous avons est tout à fait différente de la notion d'égalité qui pouvait exister pour Aristote. Puisque l'égalité étant une propriété de la quantité et non pas de la qualité.
Ça pose aussi la question de savoir est-ce qu'il y a un bien commun ou est-ce qu'il y a des biens communs? Et à ce moment-là, parce que avoir l'expérience d'un bien commun au sens de l'indéfini, c'est-à-dire d'un bien commun parmi les autres, c'est pas difficile ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui font partie du bien commun. Mais est-ce que ça existe le bien commun? Voilà, c'est ça.
Allez,
mais qu'est-ce que c'est du coup?
Le niveau, quel est le niveau du bien commun dans la nation française aujourd'hui? C'est peut-être en dessous du niveau de la mer. Je crois. Oui.
Est-ce que tu ne parles pas, justement, dans ce problème, de ce point de vue, la diversité possible des biens communs? traiter de l'interaction des diverses communautés politiques. Communautés religieuses, communautés artistiques, culturelles.
Oui. Communautés travailleurs.
Voilà. Mais en même temps, au point de vue concret, parce que vu la situation limite actuelle, qui en fait se souligne sur deux points, vous l'avez énoncé par rapport au nom d'une objectivité d'un anti religieux et s'inscrit sur la situation limite, et comme ce que disait Mario tout à l'heure, par rapport au nombre concrètement, est-ce qu'il y a vraiment encore une possibilité d'une solution politique au problème politique? Et est-ce que, est-ce que c'est pas au point de vue politique qu'on peut résoudre les situations limites actuelles? Par rapport à la justice et à la liberté, on ne peut pas imposer aux gens.
Bah, c'est la complexité de la notion du bien commun, je crois. C'est complexe. Vous voyez, alors le mot, on l'a un petit peu chousifié, n'est-ce pas ? Alors que le bien commun, on en est tous responsables, nous le faisons, le bien commun. C'est là le point de vue, je crois, très propre de cette solidarité, de cette coopération, ce qu'on soulignait. On le fait, le bien commun. Il ne descend pas du ciel comme la Jérusalem céleste. C'est la différence avec l'Église. L'Église aussi, on l'a fait. Et qu'on est tous responsables de l'édification de l'Église. Mais elle descend quand même toujours du ciel. Comme le manne. Tandis que le bien commun de l'État de dépense ne descend pas du ciel.
Est-ce qu'on ne va pas distinguer ce qui est proprement la réalisation d'activités politiques? Le bien commun au sens de ce qui réalise cette activité propre de l'homme qui est l'activité politique. Et en fait, cette activité, elle est toujours en référence à un autre bien, qui peut être un bien naturel, préserver les enfants, qui peut être la défense, par exemple, d'un groupe, et en même temps, qui peut être de manière plus élevée un bien personnel, rejoindre le bien personnel de chacun. Et est-ce que dans ce sens-là, la cité, c'est-à-dire la communauté la plus parfaite, sera celle qui, se fera par un bien personnel. Mais on peut trouver différents niveaux en fait, de communauté en fonction du bien naturel auquel elle fait référence. Qui peut se situer à des niveaux différents. Puis,
ce qu'on appellera aujourd'hui la défense des valeurs.
Je voudrais savoir si la famille telle qu'elle est vécue actuellement avec les divorces et
c'est évident que le problème de la famille a tellement évolué d'Aristote à nos jours. Alors il y a un lien, ça on peut pas, je crois qu'on peut pas le nier. Il y a un lien qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas de l'aspect politique et de l'aspect familial. Bon, on est en face actuellement, puisque les prochaines lois vont presque manifester que ce lien est rompu, qu'on n'en veut plus. Et donc, pratiquement, on est devant une révolution au point de vue politique radicale. Parce que moi, je crois supprimer le lien entre famille et politique. C'est la plus grande des révolutions. Et ça se fait tout doucement. C'est le socialisme parfait. Oui. Le marxisme n'est jamais arrivé à le supprimer.
Que pensait Platon ?
Puis Platon, l'individu. Et on arrive à ça. Parce qu'il y a quand même dans l'air ce désir, comme toujours, comme dans les moments de on ne sait plus où on va, on retourne à des sources. Alors, sans mettre Platon et sans dire Platon, c'est quand même ça qui reste. Et Platon est pour, je crois, ceux-là, pas les marxistes qui ne veulent pas. Alors ils ont un a priori contre Platon, mais le socialisme, qui est marxiste, si vous l'aimez, d'une autre manière.
C'est la légitimité du sujet poussée à son terme.
Exactement, exactement.
On arrive au bout.
On dira le divin Platon, et Platon c'est la révélation.
Est-ce
qu'on peut parler d'un bien de la communauté dans la mesure où la communauté politique est toujours dans un devenir et qu'elle n'est jamais achevée?
C'est pour ça que, vous voyez, le bien commun, c'est pas tout fait, ça se fait tout le temps. Ça se fait, ça se défait, ça se refait.
Par rapport à l'art,
est-ce qu'il faut commencer par la personne, par la communauté ou par le bien commun? Et est-ce qu'on peut réfléchir sur le bien commun? Est-ce qu'on comprend la communauté par le bien commun ou est-ce qu'on comprend le bien commun par la communauté?
On comprend le bien commun par la communauté.
Donc on est obligé de commencer un peu par la communauté.
C'est la personne. Tout le problème est la personne. Moi je crois. Même pour Aristote, c'est pour ça que le livre premier de l'éthique est si important. Il n'y a que Machiavel qui fait l'inverse. Mmh. Et Platon, puisque le bien commun descend d'en haut.
Le bien commun regarde-t-il l'homme comme membre d'une communauté ou aussi comme personne d'une part? Et d'autre part, le bien commun est-il au service de la personne ou la personne au service du bien commun?
Vous ne pouvez pas séparer, puisque vous êtes dans le pot du bien commun. L'homme politique. L'homme engagé dans une communauté. C'est l'homme engagé dans une communauté. Donc c'est la personne humaine engagée dans la communauté. Cette fameuse parole, homo ut homo, es pars civitatis. L'homme comme homme est parti de cette idée. C'est de saint Thomas.
Est-ce que tout l'homme est parti de la cité?
Là, c'est la question. C'est la question du bien personnel et du bien commun. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer par la personne. Et c'est en ce sens-là que la métaphysique, qui précise ce qu'est la personne, a son rôle et son influence sur toute la politique. La philosophie est un tout, n'est-ce pas ? et je ne peux pas établir une éthique parfaite sans métaphysique, je ne peux pas établir une politique sans éthique, je crois.
Vous avez dit qu'on pouvait déterminer ce qu'était le bien commun à partir de l'expérience de la communauté.
L'établir.
À partir de l'expérience de la communauté. Et est-ce que vous pouvez voyez ce que c'est que cette expérience de la communauté? Est-ce que justement elle n'est pas relative au bien commun? Est-ce que c'est une concorde? Est-ce que c'est une espèce de filière politique? Ou alors est-ce que c'est au point de la justice? Et alors la justice elle-même est relative au bien commun.
Toute expérience communautaire est relative au bien commun. En fait, autrement.
Mais il ne faut pas analyser la communauté avant de dire ça, parce qu'on ne sait pas s'il existe le bien commun.
C'est la question de savoir. La communauté, c'est ce que fait Aristote quand il commence à analyser la famille.
Il parle du bien commun avant, enfin, la soi-disant
famille. Oui, ça c'est à toute vitesse, là. Mais c'est pas ça. C'est pas là où il donne. Là, c'est un livre critique, donc il peut en parler avant. Mmh. Pour critiquer Platon. Non. Le livre premier, c'est critiquer Platon. Le bien, c'est pas le bien en soi. Voilà. Et puis après, on commence, point de vue politique, on doit commencer par la première communauté. C'est possible autrement. Ou bien alors, vous faites de la politique, de la communauté politique, quelque chose qui descend du ciel. La Jérusalem céleste.
Mais il parle du bien dans la politique avant de traiter la famille et avant d'analyser.
Tout au début de la politique.
Oui, tout à fait.
C'est les quelques lignes. Voilà. Oui. Alors je crois que c'est une référence,
oui, ça, c'est une référence
à ce qu'il a dit au début de l'éthique.
Oui, c'est la même chose. Mais en réalité, vous ne pouvez connaître ce que le bien commun qu'à partir de la communauté. Ça émane de la communauté. Et ça dérive la communauté. C'est ça qui est très très curieux.
Mais c'est pas une simple émanation, c'est là le risque de tomber dans la logique catholique.
Mais oui. Enfin, c'est parce que, vous voyez, la fin est quelque chose qui s'impose alors. Le bien s'impose. Le bien transcende toujours. Autrement, c'est plus le bien. Et quand on dit bien commun, commun, c'est l'immanence. Et bien, c'est la transcendance. Et donc, qui dit bien,
pour revenir sur la réflexion de communauté bien commun, est-ce que toute communauté a un bien commun? Et est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des communautés qui ont, je dirais, une origine de vie artificielle? Est-ce qu'on pourrait pas avoir un critère qui permettrait de distinguer ces deux sortes de communautés par la solidarité qui existe entre les membres? Cette solidarité qui est en fait une complémentarité parmi les membres pour effectivement avoir une réalisation commune, et que cette réalisation commune soit en fait ce qui les finalise tous, c'est-à-dire qu'ils ne s'opposent pas à une autre communauté, mais qu'à l'intérieur de cette communauté, ils trouvent la fin qui justifie d'organiser toutes leurs énergies. Par exemple, à une communauté qui serait deux communautés qui s'opposent, les organisations syndicales, patronales et ouvrières. Est-ce qu'elles ont réellement des biens communs?
Bonnet, elles en ont toujours. Il peut être faux, mais ça non.
Ah, il peut être faux.
Voilà.
C'est une question aussi du caractère naturel, justement, de la communauté.
C'est sûr.
Quid d'une communauté artificielle?
Parce que si le bien détermine, le bien commun va être faux. On ne peut pas se déterminer sur quelque chose de faux.
Non, le bien comme bien n'est pas faux.
Ah.
Mais la conception des hommes, l'idéologie des hommes à l'égard du bien commun peut être fausse. C'est sûr.
Comme vous disiez qu'il faut partir du problème de la personne, est-ce que quand on voit des pays comme la France aujourd'hui, avec le niveau de bien commun, on voit bien, est-ce qu'il n'y a pas une répercussion directe entre la conception que l'homme a de sa propre finalité et le niveau auquel il met sa
vie, tout à fait.
Et le bien du pays et le bien commun, la répercussion, c'est directement au niveau politique. Est-ce que c'est pas vraiment lié, quoi, c'est...
Les deux se tiennent. Il y a une interférence constante.
Quand même avec peut-être un ordre, comme le disait Frère Jean-Thérèse tout à l'heure, c'est qu'il, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'éthique communautaire possible sans éthique personnelle préalable.
C'est sûr. Ça, c'est sûr.
Est-ce que c'est pas pour ça que dans l'éthique énigomaque, Aristote commence par parler de la politique, puis étudie l'éthique pour revenir ensuite dans
c'est
son
sûr.
Livre sur la politique.
C'est sûr.
Vraiment la politique.
Mais déjà dans le début de l'éthique, on voit bien qu'il n'y a pas de politique sans éthique. Et il n'y a pas d'éthique sans éthique personnelle. Ça, c'est très net. Et c'est pour ça que toute communauté qui se fait quand même toujours en vue d'un bien qu'on cherche. Vous voyez, l'éclosion de toutes ces petites communautés qu'on a vues et qu'on voit. Comment ça se fait? Est-ce que ça se fait tout simplement par un phénomène? On est seul, on a besoin de s'aider. Une complémentarité, mais non, il y a plus. On s'aperçoit que la communauté existante ne donne plus ce qu'elle devrait donner. Alors, il y a un phénomène nouveau qui se commence. Vous voyez ? Et au fond, les groupements politiques, c'est comme ça que ça commence. On a l'impression que le point de vue politique est très bas. Alors, on veut le refaire. Et on s'unit en vue de ça.
Oui, mais alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Justement, dans l'ordre de l'amour d'amitié, je dirais que c'est le premier amour qui attire les deux amis l'un vers l'autre.
Oui.
Qu'est-ce qui va tenir lieu du premier amour dans l'ordre politique, si j'ose dire?
C'est l'amour qu'on a pour les hommes.
Voilà, c'est ça. Donc c'est bien un regard de sagesse sur l'homme.
Tout à fait. C'est l'amour qu'on a pour les hommes. S'il n'y avait pas de philanthropie, dans le sens, il n'y aurait pas de politique. Il n'y aurait pas de communauté politique. Si on était tous, par nature, des apaches, les hommes, et il n'y aurait pas de communauté politique. Il y aurait ce que Aristote appelle l'amitié des voleurs.
C'est sûr.
Qui n'est pas une amitié. C'est de l'ordre du deal. C'est de l'ordre purement du deal.
Est-ce que ça suffit, la philanthropie? Parce que quand vous parlez d'un bien, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse toujours et donc qui est personnel. Quand même.
C'est le bien de l'homme.
Oui, mais de l'homme, je l'aime pas comme ça.
Mais de l'homme, dès l'homme.
Il y a un fondement, il y a un minimum.
Mais tiens, si c'est l'homme.
Il y a un respect naturel, quand même.
De la nature humaine.
Il y a une
humaine.
Connaturalité fondamentale.
La nature humaine existe. Alors, la nature humaine, elle est concrète dans telle ou telle chose. C'est quand je vois des misères, des hommes qui meurent de faim, je dis, il y a quelque chose qui va pas.
Oui, mais si
créons quelque chose. Quoi?
Si j'ai pas du tout un sens de l'amitié ou quoi que ce soit...
J'ai un sens d'un amour instinctif vis-à-vis de l'homme. Je ne peux pas, si je suis encore un être humain, laisser mourir à côté de moi un homme comme je laisse crever un animal. Le jour où on laisse crever un animal de telle façon et qu'on laisse un homme de telle façon, eh bien, il n'y a plus rien, on est un.
Mais est-ce que ça suffit pour établir un bien commun politique?
Oui, c'est le point de départ.
C'est le minimum.
C'est le minimum, c'est le point de départ. C'est le premier amour.
Est-ce que c'est ce que veut dire Aristote quand il dit que l'intérêt général, de la politique, quand il dit que l'intérêt général ne suffit pas à expliquer la communauté politique, mais que de toute façon, les hommes qui vivraient ensemble, même s'il n'y a pas d'opposition.
Oui, mais il dit ça, c'est que c'est pour lutter contre le point de vue de dire. Faut pas l'oublier, il y a toutes ces visions directes d'Aristote, considérer que la politique est uniquement pour l'utilité. Et considère que le bien commun, c'est pas seulement l'utilité.
Vivre et bien vivre.
C'est ça. Et c'est contre ça qu'il lutte, vous voyez.
Est-ce qu'on peut trouver dans le bien commun, on peut parler du bien commun sans l'intervention des vertus?
Mais ce que disait le père, c'est-à-dire que si la philanthropie est le minimum, t'as pas encore besoin des vertus. Un groupe humain, même s'il n'est pas une communauté parfaite, peut exister sans que les vertus soient encore très élaborées.
C'est ce qui existe.
Non mais ça c'est autre chose.
Non mais au fur et à mesure que l'œuvre commune va se développer,
tout à fait, les vertus sont nécessaires.
Voilà.
Mais c'est ce que dit Aristote, c'est qu'il y a un fondement naturel qui est presque plus radical encore que les vertus. Donc il y a un enracinement de la politique dans la philosophie du vivant qui est quand même...
C'est sûr, c'est pas les vertus qui font de la politique. Sûrement pas.
C'est un troupeau amélioré, quoi, mais c'est pas.
C'est pour le bien vivre.
Qu'est-ce qu'il y a de spirituel au point de vue philanthropique? Dans quelle mesure la philanthropie, c'est-à-dire l'amour pour ses semblables, touche quelque chose d'au-delà de l'instinct qui est aussi propre à l'animal et touche quelque chose de spirituel en fait?
Oui, c'est une expérience humaine très radicale de connaturalité entre les hommes. Vous voyez, Hitler, parce que c'est intéressant de voir ça, Hitler a voulu supprimer ça. Et il y avait toute la méthode par laquelle il éduquait les jeunes qu'il voulait prendre. C'était qu'il puisse rester impassible quand on faisait devant leurs yeux souffrir un animal. Ça a commencé comme ça. Puis quand il restait impassible, on passait à l'homme. Et il fallait rester impassible devant les souffrances d'un homme qu'on martyrisait devant vous. Supprimer radicalement ce sentiment naturel qu'on ne peut pas voir un animal souffrir sans sentir quelque chose, une émotion. C'est le sentiment fondamental, générique de l'animal. On est parents avec les animaux. Il y a une parenté. Et on ne peut pas voir souffrir un animal, c'est du reste le dicton commun. C'est que si on est bon avec les animaux, on sera bon avec les hommes. Si on est bon avec... C'est pas toujours vrai, comme dans les dictons. Mais il y a quelque chose de juste. C'est qu'on ne peut pas rester indifférent devant la souffrance d'un animal. Et supprimer ça. Cette sorte d'instinct générique. Alors il y a l'instinct spécifique de l'homme à l'homme, la même nature.
Il y a des communautés animales qui fonctionnent beaucoup mieux que les communautés humaines.
Oui, ça c'est ça.
Les abeilles, c'est beaucoup plus.
Et Aristote reconnaît que la finalité de l'animal est beaucoup plus respectée que la finalité de l'homme. Ut in pluribus, vanat in sensu.
Alors, est-ce que le but de l'homme, c'est de laisser le fonctionnement animal, vous voyez, est-ce que le but de la politique, c'est de laisser le fondement naturel? C'est vrai, il n'y a pas de syndicaliste chez les abeilles.
Ils n'ont pas besoin, ils ont une reine.
Voilà.
C'est le philosophe froid.
Non, parce qu'il y a,
c'est la reine mère.
Il y a tout un courant qui s'appuie sur la sociobiologie, qui est de dire qu'au fond, le but de la politique, c'est présentement, alors pour le coup, de laisser le fondement naturel et vital, et que c'est la loi du plus fort, et donc il faut accepter de supprimer des gens qui ne sont pas compétents pour eux.
C'est très faux, parce que c'est oublier le point de vue spécifique de la raison et de la finalité.
Mais ça souligne l'enracinement dans la dimension animale.
Pour l'animal, la finalité, c'est de garder l'espèce. Donc c'est fondamental. Il n'y a que l'homme qui a un bien transcendant.
Mais quand il supprime l'espèce.
Bien transcendant. Et si on supprime la transcendance du bien commun par rapport à l'individu, comme si c'était... On retombe dans ce point de vue générique et d'immanence.
L'instinct générique, alors, il implique aussi la dimension spirituelle. L'instinct générique dont vous parlez, il implique aussi donc la dimension spirituelle, puisqu'elle est présente dans mon semblable.
L'aspect spirituel n'est pas dans l'instinct générique. Le genre ex parte materiae.
Donc la communauté se fonde sur quelque chose d'animal.
Très radical. L'espèce. Alors, on tombera dans la race. Sélectionner la race. C'est exactement ça. Comme les animaux. Les animaux, on sait bien. Ils sélectionnent. Ils sélectionnent la race. Les oiseaux migrateurs font des essais. Et ceux qui n'arrivent pas, on les tue, on les laisse là. Parce qu'il faut que pendant le voyage, personne ne meure. C'est très curieux du reste, mais c'est ça fait comprendre justement ce point de vue générique. Et quand l'homme tombe dans ce point de vue générique, c'est effrayant.
Puis il y a quand même c'est important parce que la communauté aura par certains côtés ce comportement instinctif de suppression, de sélection et de suppression du plus faible. Même si c'est pas pensé idéologiquement, je veux dire.
Oui. Mais ce qu'on a fait. De racisme où à l'intérieur même de la même race on supprime les plus faibles pour en avoir que... Vous avez fait le calcul, c'était Marois qui m'avait c'est justement ça.
C'est pas parce que justement c'est un principe et que de ce fait on peut le préciser par des modalités. Enfin, on peut le préciser par. On peut dire donc le bien commun, ça peut être l'œuvre, ça peut être.
Mais on ne cherche pas à le préciser maintenant. On essaie de voir toutes les difficultés que nous avons.
Je retravaille après. Effectivement, est-ce que c'est une induction, est-ce que c'est une réduction? Quel type de par quel, en plus, au point de vue critique, par quel travail de l'intelligence on le cerne?
Est-ce que je peux définir le bien commun? Je ne peux pas le définir. Bon, première notion. La logique ne peut pas me servir là-dessus. Donc, seule la connaissance de l'homme et les différents niveaux de l'homme. Et donc on en arrive toujours à la question de la personne. Et l'axe de la personne étant l'intelligence. C'est par le point de vue de l'intelligence qu'on arrivera à préciser ce qu'est le bien commun.
Est-ce qu'il sera possible de manifester, à quoi qu'on peut en critique, dans un jugement de sagesse, pourquoi c'est si séduisant alors qu'on n'y voit rien?
Pourquoi?
Pourquoi l'aspect politique est si séduisant? Pourquoi il y a une telle attraction et tant de discussions autour d'un sujet où on est très peu lucide?
C'est évident que c'est l'aspect politique où les idéologies marquent le plus.
C'est le tout en plus. C'est la fascination du tout.
C'est la séduction du tout. Et la fascination de la domination. Dominer le pouvoir. La confusion de l'autorité et du pouvoir est une des raisons aussi qui a transformé le bien commun. Ça, j'en suis sûr.
On ne doit pas distinguer aussi le bien humain et le bien commun.
Le bien.
Le bien humain et le bien commun.
C'est sûrement. Le bien humain et commun.
Parce que, est-ce que justement le bien commun est toujours humain?
C'est, oui, est toujours oui, humain. Oui, oui. Et, autrement, il serait plus bien.
Ce que je veux dire, dans la critique de ça, c'est est-ce que le bien commun il doit être, d'une certaine manière, un peu éternel dans une cité?
Il doit toujours être un bien humain. Le bien humain, c'est quelque chose de radical. Et puis, il va se diversifier. C'est ce que dit Aristote au début de l'éthique. La politique et l'éthique regardent le bien humain. Et non pas le bien en soi. Donc, c'est le bien humain. Le bien commun, c'est le bien humain de la communauté. Et tout bien humain de la communauté, ça fait partie du bien commun. Et chaque citoyen, dans son devoir, doit l'actuer, ce bien commun. Il en est responsable. Il n'invente pas. On ne fait pas le bien commun. Le bien commun transcende toujours. Il le découvre et il doit l'actuer pour le garder. Alors ça ne dit pas encore ce que c'est, hein. Mais il y a quand même quelques aspects négatifs. Toujours quand on est en face de quelque chose de difficile, l'aspect négatif nous aide beaucoup. Le bien commun, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le bien de l'homme, donc bien humain, de l'homme dans son développement communautaire. Et le bien de l'homme dans son développement communautaire s'enracine dans quelque chose de naturel. C'est pour ça que la fameuse phrase Aristote, l'homme est un animal politique. C'est l'aspect politique et naturel pour l'homme. Oui. Et l'aspect au-delà du point de vue communautaire, donc l'ermite, c'est ou divin ou animal. Cette fameuse phrase Aristote. Je crois que ça c'est très important. Le bien commun n'est pas divin. Il est humain. Il est doublement humain. La contemplation est surhumaine. Elle est divine. Elle reste humaine. Elle est surhumaine. Tandis que le bien commun, c'est pas la contemplation. La liturgie est un bien commun.
Au rôle de la quantité.
Ah, oui, ça, on va revenir là-dessus. Ça, c'est très très important, je crois.
Est-ce qu'on peut dire, Aristote dit dans notre politique que le citoyen, c'est proprement celui qui participe à la, qui est engagé dans la vie de la cité.
Qui participe, oui, tout à fait.
Est-ce qu'on peut dire que dans une cité, dans une communauté trop importante, la participation à la vie politique étant de plus en plus indirecte, ça ne conduit pas nécessairement à une certaine responsabilité ou à un inattention ?
Oui, voyez, comme vous participez au gouvernement politique de la communauté, vous en avez l'expérience. Mais c'est très vrai, on doit. Tout citoyen est responsable de la communauté et donc du bien commun. Tout citoyen. Et le jour où le citoyen s'en lave les mains en disant c'est fini, il n'y a plus de bien commun. Il se coupe du bien commun.
Mais est-ce que concrètement, justement, ça va nous conduire par rapport à ce que doit être une organisation politique à nécessairement mettre en place des structures qui permettent que les citoyens, le plus possible, puissent être davantage responsabilité.
C'est la démocratie. C'est le but de la démocratie. Ça, c'est sûr. Vous voyez, c'est le côté humain de la démocratie et civique. Parce qu'il est évident que quand l'autorité est réservée à quelques-uns, on risque de se désintéresser. En disant, je fais partie du bétail, ça sera bien. Et c'est très vrai, on comprend très bien ça.
On se retrouve à la rotonde pour l'Angélus.